Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez lu les journaux de ce dimanche et on va parler de courage ce matin.
Elle s'appelle Arifa, elle a 17 ans et la voici allongée sur un lit d'hôpital à Kaboul. Arifa a survécu à l'explosion de son école, cible d'un groupe de fondamentalistes. Plus de 80 camarades sont morts dans l'attaque. Aujourd'hui, Arifa dit qu'elle a peur, bien sûr, mais surtout qu'elle veut continuer à étudier avec ses stylos et ses cahiers. C'est sur le site du New York Times que je découvre l'histoire d'Arifa et de toutes ces filles d'Afghanistan, intrépides qui ont beaucoup à nous apprendre, écrit le grand reporter Nicolas Christophe. Au moment où les États-Unis s'apprêtent à quitter le pays, il veut croire en l'avenir parce qu'une fille avec un livre, dit-il, est une plus grande menace pour les extrémistes qu'un drone de l'armée. Parce qu'une nation se construit sur la culture, sur une histoire, une réalité partagée, le bien-être d'une communauté, explique une enseignante. Alors à nous de ne pas l'oublier, d'être présent, prévient le journaliste américain qui insiste. L'éducation des filles afghanes n'a rien à voir avec un idéalisme mollasson, non. L'éducation est juste le meilleur des outils. Raconter l'histoire, les histoires, c'est un métier, celui d'écrivain public, beaucoup plus proche de nous. Les voici à la une du bien public ce matin, ces femmes, ces hommes qui se passionnent pour la vie des autres, qui prêtent leurs plumes, comme une collecte de mémoire, explique Pascaline, parce que toutes les existences méritent d'être mises en valeur. Alors il y a les biographies qu'on aide à rédiger, les discours de mariage, les phrases de rupture aussi parfois, et puis l'administratif, évidemment, les lettres de motivation, les démarches numériques. Ça sert à tout ça, un écrivain public, pour ceux qui ont du mal avec les mots. Bon, il y a aussi parfois des demandes pour le moins cocasses. Jacques raconte par exemple cette personne qui voulait un coup de main pour dénoncer un voisin aux services fiscaux, rédiger un courrier anonyme. Bon, là tout de suite, c'est beaucoup moins romantique.
Moins romantique aussi, c'est la une du JDD ce matin.
Qui concerne le Rassemblement National et l'argent du Parlement européen. L'affaire n'est pas nouvelle, mais elle devient, disons, plus concrète. Le JDD dévoile un rapport de police, 5 années d'enquête et une conclusion accablante, nous dit le journal. De quoi épingler dirigeants élus et proches du parti pour détournement de fonds publics. Un système dont Marine Le Pen serait l'organisatrice. Déjà mise en examen, elle continue de nier la fraude. L'utilisation des fonds pour payer des collaborateurs sans rapport aucun avec Bruxelles. Le JDD retranscrit notamment un échange de mails en 2014 entre un eurodéputé et le trésorier du parti. L'élu écrit « Ce que Marine nous demande équivaut à ce qu'on signe pour des emplois fictifs. On va se faire allumer. » Réponse laconique du trésorier « Je crois bien que Marine sait tout cela. » Évidemment, on se pose la question, cette affaire peut-elle bouleverser la prochaine présidentielle? La réponse est plutôt non. Si la juge d'instruction devait renvoyer le dossier devant un tribunal, le procès n'aurait pas lieu avant la campagne de 2022, calcule le JDD. Les avocats ont logiquement multiplié les recours pour faire traîner l'enquête. De toute façon, il est peu probable que cette affaire perturbe les électeurs du Rassemblement National. Non, ce matin, c'est plutôt du côté de LR qu'on peut s'interroger. Avec ce titre dévastateur du Parisien, les Français doutent de l'utilité des Républicains. Le résultat d'un sondage qui montre une droite déboussolée, prise en tenaille entre La République En Marche et le Rassemblement National. Idée jugée trop proche des uns ou des autres, l'existence même de LR est en question, estime le patron d'Ipsos, Brice Teinturier. Autre monument en péril, un vrai celui-là, avec ses fondations du XIIIe siècle, entouré de douves, envahi par les arbres, de beaux érables qui montent au ciel en épousant le mur de la Grande Tour. Une folie architecturale à 3 heures de Bordeaux, aux confins de la Touraine, devenue la belle histoire du château de la Motte-Chandonnier, racheté par plus de 27 000 internautes à travers le monde. Double page dans Sud-Ouest ce matin et visite en compagnie de Romain, jeune trentenaire, avec un ami de son école de commerce. Ils avaient lancé un projet de financement participatif sur les réseaux sociaux. 50 euros pour devenir châtelain, une affaire. Au total, ils en ont récolté 1,6 million. Et déjà, on aperçoit les échafaudages, les idées pour plus tard, un café, des chambres, un musée. Ne reste plus qu'à transformer le rêve en réalité.
Oui, un peu comme au cinéma d'ailleurs.
Avec bientôt la réouverture des salles, les voyages extraordinaires, comme dans une église, raconte Albert Dupontel dans le JDD, quand on se sent tout petit face à la toile gigantesque. Je vous présente aussi Laurent Baricot, patron enthousiaste du cinéma de Saint-Saturnin dans la Sarthe et dans les colonnes de Ouest-France ce matin. Comme ses collègues, Laurent va pouvoir recommencer enfin mercredi prochain, après 7 mois de salles totalement obscures pour cause de Covid. Mais pendant tout ce temps, Laurent a bien veillé à faire tourner ses projecteurs 2 fois par semaine pour éviter les pannes. Il ne manque plus que le public, et tant pis s'il y a une jauge, tant pis le couvre-feu, tant pis pour la rentabilité, s'emporte Laurent. À Saint-Saturnin, on préfère voir l'écran à moitié plein.
Alors, on retient l'expression l'écran à moitié plein. Merci Jean-Philippe Ballas.